libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat pour nous rejoindre sur le salon. Nous sommes mardi 5 mars 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org, donc april.org, et vous trouvez déjà sur le site une page qui référence qui indique les références dont on va parler. Au cours de l'émission, elle sera mise à jour après l'émission, évidemment, en fonction de nos échanges. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, on va passer maintenant au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes avec un échange avec Xavier Berne, journaliste pour Next Impact, site d'actualité et d'enquête qui traite d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique libre. Normalement, Xavier est avec nous au téléphone.
Absolument, je suis là, bonjour.
Bonjour à toi, on se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Nos invités aujourd'hui, donc Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimedia France.
Bonjour.
Bonjour Nadine. Et Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Frédéric.
Alors, nous expliquerons évidemment en détail ce qu'est Wikipédia et ce qu'est Wikimedia France. En fin d'émission, nous aurons la première chronique juridique de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune, qui nous parlera du concept d'originalité dans le droit d'auteur. Et à la réalisation aujourd'hui, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Donc bonjour Patrick. Et je salue également Charlotte Boulanger, bénévole à Cause Commune, qui l'aide dans cette mission de régie. Donc tout de suite, nous allons passer au premier sujet. Donc un échange avec Xavier Berne. Donc je rappelle que Xavier Berne est journaliste pour Next Impact, donc nextimpact.com. Et Xavier souhaite nous parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est une application web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en 2018 dans le cadre de la loi d'orientation et réussite des étudiants. Donc elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, qui avait été vivement critiqué en 2017. Je précise que cette source, c'est Wikipédia, pour faire le lien avec l'émission d'après, le sujet d'après. Donc Xavier, tu vas nous parler notamment d'un jugement récent concernant Parcoursup. Donc Xavier, on t'écoute.
Absolument, effectivement, le 4 février dernier, en fait, le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF, donc le syndicat étudiant, son algorithme local de sélection des étudiants. Alors algorithme, en fait, c'est quand même un bien grand mot parce qu'en réalité, les universités ne recourent à des tableurs Excel, en fait, qui leur permettent tout simplement d'opérer un pré-classement des candidats, notamment par exemple à partir de leurs notes, avant que se tienne un jury où là seront sélectionnés les candidats. Retenus ensuite pour des formations de type licence, BTS, etc. Donc sur le fondement de la fameuse loi CADA, dont on a déjà parlé donc, dans cette émission relative à l'accès aux documents administratifs, l'UNEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux afin tout simplement que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné.
Alors, pourquoi ce jugement est important ?
Alors, il s'agit d'un jugement qui est hautement symbolique parce que c'est le premier qui a été rendu sur ce sujet. Et surtout, le tribunal va à rebours de la position du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des universités. En fait, le juge, dans le détail, a retenu que la divulgation de cet algorithme local ne portait pas atteinte au ce qu'on appelle le secret des délibérations du jury, une notion qui en fait avait été introduite l'année dernière par le gouvernement, sans que celui-ci, d'ailleurs, n'avoue réellement pourquoi est-ce qu'il avait voulu introduire cette notion lors des débats sur le projet de loi Parcoursup. Le juge a donc ordonné donc, la communication des procédés algorithmiques utilisés par l'Université des Antilles ainsi que les codes sources afférents sous un mois avec astreinte. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi le tribunal a clairement suivi l'analyse du défenseur des droits qui, au mois de janvier, avait estimé que se plier à cet effort de transparence en fait, n'obligeait pas les universités à dévoiler le contenu de l'appréciation portée sur chaque candidature, mais en fait uniquement des critères pris en compte dans l'appréciation en fait, des candidatures.
Oui, alors, quand tu précises que ça va, c'est important parce que ça va à l'encontre de la position du gouvernement, mais aussi de la CADA, de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui avait pris position pour dire qu'il y avait une non-communicabilité, si je me souviens bien, justement parce que ça pouvait apporter des éléments d'identification, en tout cas d'explication sur des décisions particulières, individuelles, alors qu'en fait, la publication qui a été demandée, c'est vraiment les règles générales, ce qu'on appelle un peu les algorithmes, hein, qui sont quelque part une suite finie d'opérations qui permettent d'arriver à une décision ou à mettre en place une procédure. Et donc, ce jugement est important parce qu'il va donc à l'encontre de ce qu'affirmait le gouvernement, la CADA. Et tout à l'heure, tu parlais d'un amendement en 2018. Si je me souviens bien, je crois que c'est bien indiqué dans un de tes articles, le gouvernement avait bien dit que ça ne remettrait pas en cause justement l'accès à ces documents administratifs, à ces algorithmes locaux. Et pourtant, de facto, ben, la réalité est contraire. Et donc, c'est pour ça que ce jugement est très important. Et pourtant, il semblait que le gouvernement avait promis la transparence sur Parcoursup, justement pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné admission post-bac.
Effectivement, sur ce dossier, on peut vraiment parler d'un bal des faux culs. J'ai exhumé quelques citations intéressantes lors de la préparation de cette émission. Donc, l'année dernière, devant le Sénat, lors de l'examen du projet de loi sur Parcoursup, Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, avec par exemple assuré que les codes sources de tous les algorithmes de Parcoursup seraient rendus publics. Promesse à nouveau formulée quelques semaines plus tard, en avril 2018, Public Sénat, pardon, je cite, la totalité des algorithmes seront publiés. Même Mounir Majoubi, son collègue secrétaire d'État chargé du numérique, qui était engagé cette fois dans les colonnes de l'étudiant, où est-ce qu'elle disait, je cite, le code source de l'algorithme national de Parcoursup sera rendu public, l'algorithme d'affectation utilisé par chacun des établissements le sera également. Donc voilà, on voit clairement aujourd'hui que ce n'est pas le cas, vu que les algorithmes d'affectation utilisés par chacun d'établissements n'a pas été rendu public. En revanche, il faut quand même souligner que le code source de la plateforme nationale de Parcoursup a lui été rendu public, mais donc pas les fameux algorithmes locaux. Et c'est un petit peu le problème, parce qu'en fait, selon de nombreux observateurs, il s'agit en fait du cœur de la machine Parcoursup, là où se joue en grande partie la sélection des étudiants.
Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accès au code source ne suffit pas, parce que le code source peut être accompagné de documents externes, de documentation externe ou de procédures externes, et c'est un peu ce qu'on parle avec ces algorithmes. Et puis il y a la partie nationale, et puis il y a la partie évidemment locale, donc les algorithmes locaux. Par rapport à ce jugement, alors c'est un jugement en première instance, est-ce que ça signifie que désormais toutes les universités vont devoir divulguer leurs algorithmes locaux ?
Non, effectivement, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a seules certaines universités qui ont recours à ces outils d'aide à la décision.
Ces fameux tableurs.
Il y en a environ une université sur quatre qui a eu recours. Et surtout, bah, comme tu l'as déjà dit, il me semble, l'Université des Antilles veut se pourvoir en cassation.
Non, je ne l'avais pas dit, mais...
Il me semblait. Donc, autant dire que les universités, les étudiants et le gouvernement vont scruter cette décision du Conseil d'État avec la plus grande attention. Et la bataille s'annonce vraiment rude, parce qu'il y a des positions très fermes de la part du ministère, mais aussi de la technicité en fait, de cette matière. Les textes sur lesquels cette bataille est lancée sont très peu intelligibles. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de certains acteurs, justement, entre ce que tu disais, algorithme, code source. Et il y a aussi une nouvelle notion qui a été introduite par la loi numérique de 2016, c'est sur les principales règles de fonctionnement en fait, des algorithmes, et qui ressemble un peu plus à une sorte de notice, de mode d'emploi de fonctionnement des algorithmes utilisés par les administrations.
Tu veux dire qu'au-delà du code source de la plateforme, il y a les algorithmes locaux, et ensuite il y a des documents qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme, c'est ça ? En fait, il y a trois types de documents quelque part.
Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis la loi numérique de 2016, alors c'est une mesure qui est entrée en vigueur en septembre 2017, mais toutes les administrations, donc ça ne concerne pas uniquement Parcoursup, même si c'est là que c'est intéressant, parce qu'ironie de l'histoire, ces dispositions avaient été taillées pour APB, le prédécesseur de Parcoursup. Et donc, toutes les administrations, à partir du moment où il y a une décision individuelle qui est prise à l'égard d'un citoyen, elles doivent être capables d'expliquer comment elles en sont arrivées à ce résultat. Alors, en décrivant, par exemple, quelles données ont été traitées, quelles opérations ont été effectuées par le traitement.
D'accord. Est-ce que ces réticences sont surprenantes ? Alors, je parle par rapport aux deux types d'acteurs, on va dire les universités et le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça ? Je vais prendre un exemple par rapport au gouvernement, était bien placé pour le savoir. La première version du code source réclamé, donc, je crois que c'était APB ou Parcoursup, mais tu me corrigeras, avait été envoyée en format papier. Donc, c'était quand même montré une certaine... C'était APB ?
Oui, c'était sur APP, c'était
D'accord.
l'association Droits des lycéens qui avait à l'époque
Voilà.
suivi le.
Donc ça montre quand même pas forcément une volonté de contribuer, parce qu'envoyer un code source par papier, c'est quand même un peu absurde. Ou en tout cas, c'est une volonté de ne pas vraiment contribuer. Donc est-ce que vraiment ces réticences sont les mêmes côté gouvernement et côté université, d'après toi?
Oui, j'ai quand même l'impression qu'en fait le ministère de l'enseignement supérieur fait remonter d'une certaine manière les craintes des universités. Pour moi, je vois ça un peu ça comme une caisse de résonance.
D'accord. Donc c'est un relais du gouvernement qui finalement contraint les universités. Et on peut peut-être supposer que le fait que l'université des Antilles aille devant le Conseil d'État a été fortement encouragé par le ministère. On peut le supposer.
Oui, en tout cas, c'est ce que m'ont indiqué certaines sources. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris parce que quand j'ai contacté l'université le lendemain du jugement, ils avaient déjà un communiqué de presse prêt, qui était vraiment bien taillé en expliquant qu'ils allaient former leur pourvoi en cassation. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de préparation derrière tout ça.
Ah, de ton point de vue, si on a bien compris, on va rappeler peut-être qu'en 2016, donc il y a la fameuse loi pour une République numérique qui avait fait un certain nombre d'avancées. Donc l'an dernier, en 2018, il y a un amendement dont tu as parlé au départ qui finalement vise à vider d'une partie de sa substance la loi Lemaire, en tout cas en ce qui concerne Parcoursup. Bon, on va attendre évidemment ce que va dire le Conseil d'État, parce que je suppose que l'UNEF va poursuivre devant le Conseil d'État et va défendre cette position. Mais est-ce que toi, tu attends quoi? Des clarifications, par exemple, législatives dans le cadre d'un nouveau projet de loi que pourrait porter le ministre Mounir Majoubi? Est-ce que tu crois que c'est la CADA, par exemple, qui, on a déjà parlé lors de notre émission justement avec le président de la CADA, Marc Dandelot, de certains reculs quand même de la CADA récemment, parce que visiblement la CADA soutient la position du gouvernement et des universités. Donc, d'après toi, quoi, la solution, c'est plutôt législative, ou elle est plutôt autour de la CADA, ou finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher?
Ça dépend si on veut avancer à droit constant ou pas. Le législateur s'est prononcé, il y a eu le vote de certaines dispositions. D'ailleurs, les sénateurs qui ont. Enfin, il faut aussi rappeler que cet amendement a été voté dans un contexte un petit peu particulier. Le
Lequel?
gouvernement a attendu en fait la dernière ligne droite des débats, c'est-à-dire l'examen en séance publique au Sénat, juste avant ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Donc en fait, un moment où est-ce que, une fois que ça a été voté, après derrière, on ne pouvait plus changer grand-chose en fait.
Oui, donc c'était bien volontaire du gouvernement, une pratique habituelle, on va dire.
Voilà, on va dire que c'était pas la première fois et je pense que les sénateurs qui n'étaient pas forcément très avertis, très alertes sur ce sujet, se sont fait enfumer et derrière, ils ont essayé de reprendre la main sur ce sujet, mais ils n'ont jamais réussi. Les députés ont toujours soutenu le gouvernement dans cette entreprise. Les sénateurs avaient essayé de revenir en fait sur cet amendement lors du projet de loi sur le RGPD dans les mois qui ont suivi. Et les députés ont toujours suivi l'initiative du gouvernement, donc ça n'a pas été modifié.
D'accord.
Je pense que le Conseil d'État, donc pour répondre à ta question, pardon, je vois que le temps passe, le Conseil d'État pourrait faire une précision, peut-être clarifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas dans l'immédiat, et sinon, effectivement, il faudra plutôt, à mon avis, repasser par la case Parlement.
Alors d'accord. Juste avant de terminer, on a une petite question sur le salon. Donc je vais la sur le salon web, hein, dont j'avais donné les références tout à l'heure. Donc vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur chat. Donc la question, y a-t-il aussi des acteurs privés qui contribuent à créer les algorithmes de Parcoursup? Est-ce que tu as la connaissance, il y en a?
À ma connaissance, non, mais j'avoue que je ne suis pas forcément
D'accord.
bien au fait de ce point de détail-là.
Ok, bah, de toute façon, on vérifiera. Moi non plus, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît non, mais on vérifiera. En tout cas, voilà, il y avait cette question-là. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion?
Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet sur les principaux éléments. Merci.
Alors, en tout cas, je renvoie donc les personnes qui nous écoutent aux deux articles qu'a publié Xavier Berne sur nextimpact.com récemment. Donc les titres, c'est Transparence de Parcoursup, un an de mensonges, notamment du gouvernement. Et le deuxième article, c'est retour sur le sujet, sur le jugement, excusez-moi, imposant à une université de divulguer son algorithme local Parcoursup. Donc ces deux références sont sur le site de l'April, et sinon vous allez sur nextimpact.com et vous les trouverez. Xavier Berne, bah, écoute, je te remercie pour cette première chronique et je te souhaite de passer une belle fin de journée.
C'est moi, merci carrément. Au revoir.
Au revoir. Alors, nous allons passer à une pause musicale. C'est un groupe français qu'on a déjà écouté. Le groupe s'appelle Demi-Sel et le titre s'appelle La polka du père Frédéric, Cubi Polka.
Cause commune.
Eh bien, nous venons d'écouter donc Demi-sel. Le titre s'appelle Polka du père Frédéric Kubipolka. J'en profite pour signaler que, bien sûr, nos musiques diffusées ici sont sous licence libre. Et le groupe Demi-sel, je crois qu'il a un site web, je le rajouterai sur la page de référence sur le site de l'April. Et il tourne actuellement, enfin, il tourne en tout cas régulièrement en concert. Donc, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc nous allons maintenant poursuivre avec le sujet suivant. Notre sujet principal qui va donc porter sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Donc je vais représenter nos invités. Donc Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour.
Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimedia France. Rebonjour Nadine.
Bonjour.
Alors, Wikipédia, on peut supposer que la plupart des personnes qui écoutent l'émission connaissent de nom. On peut même supposer que la plupart ont été déjà sur Wikipédia rechercher des informations, que ce soit pour faire son devoir d'école, quitte à copier-coller sauvagement des pages, ou simplement pour avoir la réponse à la question qu'on se pose à midi à table, par exemple, et on sort le téléphone et on regarde sur Wikipédia. Donc le but de l'émission, c'est d'expliquer un peu plus ce qu'est Wikipédia, et puis surtout d'expliquer que Wikipédia, c'est pas simplement un site web que l'on peut consulter, que l'on peut lire, c'est un site web qui a notamment un bouton absolument magique, dont on va parler tout à l'heure, qui est le bouton « Éditer ». Et tu as tout à fait raison. Ça dépend effectivement des types de wiki, mais on expliquera ce qu'est un wiki. Donc le bouton modifié sur lequel une personne peut appuyer et ainsi contribuer à Wikipédia, mais on va en reparler. Alors première question, un petit point sur l'historique de Wikipédia qui fête donc aujourd'hui ses 18 ans, donc Wikipédia est majeur. Pourquoi à l'origine ce projet a été lancé et par qui ? Quel était le problème à résoudre en fait ?
Alors sur ce point exact, j'ai pas vraiment de réponse, mais en fait il faut se remettre dans le contexte. Donc on est Wikipédia a vu le jour le 15 janvier 2001. A été créé par deux Américains, Jimmy Wales et Larry Sanger. Mais en fait, leur idée initiale était de créer Nupedia, qui avait vu le jour un an avant. C'était une encyclopédie assez classique, assez traditionnelle. Ça ressemblait à ce qu'on a l'habitude de connaître, ce qu'on avait l'habitude de connaître, Universalis et Britannica, sauf que là, c'était sur Internet. Mais c'était donc les rédacteurs de l'encyclopédie étaient triés sur le volet grâce à leur CV.
Il y avait une sorte de cooptation à l'époque sur Gnupedia, en fait, pour pouvoir contribuer.
Oui. Et donc, un an après, parce que ce projet vivotait, je crois que c'est Larry Sanger qui a entendu parler des wikis, donc des sites facilement modifiables par tout un chacun et par n'importe quel internaute, notamment sans avoir de connaissances en informatique, et qui a convaincu Jimmy Wales de se lancer dans l'aventure et donc de créer un peu en annexe, en projet annexe à Nupedia, le véritable projet, Wikipédia, qui servait un peu de bac à sable, de brouillon, pour la véritable encyclopédie. Donc tous les internautes pouvaient proposer des articles sur Wikipédia et puis après ils étaient validés par les sachants, par les...
Ah d'accord, donc à l'origine en fait Wikipédia c'était un bac à sable comme tu le dis pour que les gens en gros s'amusent, mettent des choses, fassent des brouillons et qu'ensuite le comité d'experts quelque part et d'expertes valide pour mettre sur Gnupedia. Donc c'était ça.
Voilà, donc je ne savais pas. C'était pas très disruptif. Donc, il y avait quand même une élite qui sélectionnait les articles. Mais en fait, très vite, Wikipédia s'est mis à rédiger des milliers d'articles et de qualité. Et donc, en fait, a tué le père. Et donc, c'est 18 ans après, c'est le seul projet qu'on connaît et plus personne n'a entendu parler de Nupédia.
Et plus beaucoup de monde a entendu parler des autres encyclopédies qui pouvaient exister. La partie clé peut-être qui a permis cette explosion de Wikipédia, c'est justement le transfert de modèles, d'un modèle où en fait les personnes qui pouvaient écrire étaient cooptées avec un comité de validation à l'ancienne machin, etc., à un modèle où en fait n'importe qui peut donc contribuer, et avec l'explosion aussi d'Internet. Un petit peu comme d'ailleurs dans le monde du logiciel libre, où en fait le logiciel libre s'est considérablement développé à partir du moment où il y a eu la démocratisation d'Internet, et en 2001, Internet était de plus en plus accessible par toute personne. Donc ces deux choses-là, finalement, de plus en plus de personnes qui ont des choses à partager en commun, et des outils qui leur permettent facilement de modifier donc, des pages et de contribuer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la base de Wikipédia en termes de logiciel, donc c'est un logiciel qui s'appelle MediaWiki, mais il en existe plein d'autres. Donc un wiki, comme tu l'as dit, c'est un site web sur lequel une personne peut modifier directement et avec certaines mots-clés peut mettre du texte en gras, en italique, etc. Donc comme on le fait sur un traitement de texte classique, sauf que là c'est en ligne et sauf que là c'est de façon collaborative. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. Et il y a quelques fonctionnalités en plus, notamment la gestion des révisions sur Wikipédia qui s'appelle l'historique, qui permet tout à chacun de voir l'article depuis sa création. Même des articles qui ont été créés il y a 18 ans, par exemple, vous pouvez voir au départ, il y avait un paragraphe ou même une seule phrase. Et puis maintenant, il peut faire 40 pages.
D'accord. Alors, outre le fait que ce soit un wiki, il y a un point essentiel, c'est que c'est diffusé sous licence libre. Ce qui n'était, alors je ne sais pas si c'est le cas de Gnupedia, mais je ne me souviens plus, mais en tout cas ce qui n'est pas le cas des encyclopédies qui existaient à l'époque. Donc le fait que ce soit sous licence libre apporte clairement quelque chose. Nadine, le Lirza, est-ce que là-dessus c'est pour toi un point essentiel le fait que l'encyclopédie soit disponible sous une licence libre? Donc en l'occurrence c'est Creative Commons, partage à l'identique.
Oui, c'est indispensable. Ça permet une véritable diffusion sans arrêt. Quand on contribue sur Wikipédia, on a le premier message qui apparaît qui vous dit que les contributions que vous allez faire vont être partageables par tous, même à des buts commerciaux. Enfin, la licence est libre, c'est-à-dire ça ne concerne pas le droit d'auteur, bien sûr. Un auteur est toujours propriétaire de son œuvre de l'esprit. Mais elle est librement réutilisable, elle est librement copiable. Il suffit de citer la source, de diffuser sous la même licence, bien sûr. On ne va pas s'approprier un travail qui est libre pour ensuite lui mettre des droits et se l'approprier dans son coin. Donc c'est l'ouverture vers plus de liberté. Et puis un appui à la créativité, c'est-à-dire on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je pense peut-être Wikipédia, mais aussi d'autres projets Wikimedia comme Commons qui accueillent des...
Alors justement, qu'est-ce que c'est que Wikimedia Commons?
Commons, c'est une grande médiathèque.
D'accord.
Qui accueille principalement des photos, mais aussi beaucoup de vidéos maintenant, enfin ça bouge. Et sur Commons, on peut utiliser les photos. On les voit d'ailleurs circuler. Il suffit de citer l'auteur, mais on peut les modifier, on peut les vendre, on peut faire des mash-up.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est important aussi dans ce que tu cites sur Wikipédia Commons, c'est qu'en fait, il y a d'autres projets que Wikipédia, donc Commons, il y en a plein d'autres, hein, on ne va pas tous les citer, mais si vous allez sur Wikipédia, vous les retrouverez. Et Commons donc, permet quand, par exemple, on recherche une illustration pour un article et qu'on souhaite utiliser quelque chose qui est sous licence libre, c'est l'une des sources principales de référence. Ça me fait penser aussi que une façon de contribuer souvent à Wikipédia, c'est de sur les pages qui concernent des personnalités, de proposer des photos sous licence libre, parce que souvent ça manque en fait. Souvent on voit pas la photo et il y a un petit message qui dit une photo sous licence libre serait la bienvenue. Donc ça c'est important et ce succès de Wikipédia et le succès du logiciel libre sont un peu concomitants en termes de temps, de durée. C'est-à-dire c'est comme je le disais tout à l'heure, ça arrive à un moment où effectivement il y avait des gens qui ont envie de partager. Les licences libres permettent de partager dans un cadre juridique qui est bien défini et qui permet des réutilisations, y compris commerciales. Mmh. Donc effectivement, dans Wikipédia, il n'y a pas de restriction à l'usage commercial, ce qui permet aussi le succès, de la même façon qu'il y a ça dans le logiciel libre. Et c'est important de le préciser parce que pour les gens qui pensent aux licences Creative Commons, les licences Creative Commons permettent pour certaines des restrictions commerciales et d'autres pas. Donc Wikipédia a fait le choix de Creative Commons partage à l'identique. Voilà. Donc c'est en gros, vous pouvez partager ce contenu, mais sous les mêmes termes de la licence, vous ne pouvez pas retirer des libertés et vous pouvez le partager quelles que soient les conditions, c'est-à-dire en modifiant, en refaisant un mashup comme tu le disais, y compris en le vendant par exemple sur un CD, sur un DVD, etc. Et c'est le même choix qu'on a fait dans la radio. Toutes nos musiques sont sur ce type de licence.
Alors, Nadine ? Très très important, c'est que ça veut dire qu'on ne peut mettre sur l'encyclopédie que quelque chose dont on est l'auteur. On ne peut pas aller piller d'autres auteurs pour mettre leurs textes en ligne et les offrir au monde, même si on pense que ces textes sont merveilleux.
Ouais.
Voilà, exactement.
Alors d'ailleurs, ça me fait penser dans les fondamentaux, dans les principes fondateurs de Wikipédia. Alors, il y en a cinq. Hein. Bon, il y en a certains qu'on a déjà dont on a déjà parlé, le fait que ce soit une encyclopédie, le fait que ce soit publié sous licence libre. Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais dont on peut parler éventuellement maintenant, c'est la neutralité du point de vue. C'est-à-dire que les articles ne doivent pas promouvoir un point de vue particulier, mais on doit pouvoir présenter plusieurs points de vue et chacun étant libre de défendre plus ou moins fidèlement ses points de vue. Est-ce que c'est à peu près ça ?
Non, pas ça du tout, parce que c'est une encyclopédie, c'est pas une tribune.
Ouais, d'accord.
Donc c'est pas que chacun vient défendre ses points de vue, c'est que chaque sujet peut être abordé de différents points de vue. On ne vient pas défendre les siens obligatoirement, on vient... dans un esprit encyclopédique, communiquer comment ces sujets ont été traités, sont traités actuellement par les spécialistes, par ceux qui finalement ont autorité pour en débattre.
D'accord.
Donc c'est sur les sujets d'actualité, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des contributeurs qui arrivent avec des idées très fortes sur ce qu'ils ont envie de faire passer. Mais les véritables contributeurs, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui restent, ceux qui vraiment le font dans un esprit de partage de la connaissance, finalement arrivent tous à la même conclusion à un moment, c'est que on est tous là pour la même chose. On peut ne pas être d'accord, on peut travailler, enfin on peut être, je sais pas, par exemple d'extrême gauche et puis travailler avec des gens peut-être d'extrême droite. Enfin c'est pas, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas le débat, c'est pas, on n'est pas là ni pour On ne vend rien, en fait. Mais si les gens sont tous de bonne foi, si vraiment leur but, c'est de défendre une encyclopédie, de porter à la connaissance des choses le plus... qui aident les autres à réfléchir, qui aident les autres à avancer, à se faire une idée d'un sujet, il y a un respect qui s'installe, je dirais, entre contributeurs, peu
D'accord.
à peu. Et c'est pas leurs idées qui passent, on arrive à un équilibre, mais attention... Bon, on parle beaucoup de consensus, ce n'est pas non plus une mollesse de point de vue, ce n'est pas quelque chose qui dissout tout le consensus. Le consensus se fait sur une base d'argumentation de la littérature existante, les sources, la discrimination entre les sources aussi. C'est-à-dire une source ne vaut pas une autre. Ça s'apprend peu à peu. Il faut lire beaucoup, il faut être patient, certains Wikipédiens vont en bibliothèque... Moi, je suis allée à la bibliothèque pendant des années. Je disais même, si vous avez quelque chose à vérifier sur tel ou tel sujet, je suis à la bibliothèque toute la journée. Demandez-moi, je peux chercher n'importe quelle revue incroyable ou livre introuvable aujourd'hui. Je vérifierai vos sources.
D'accord. Donc, tu parlais effectivement de ces différentes personnes qui contribuent. L'un des derniers points principe fondateur dans Wikipédia, c'est le savoir-vivre dans ce projet collaboratif. Donc ça, c'est un point essentiel parce que, comme tu le dis, les contributeurs, les personnes qui contribuent viennent de profils très différents et des fois peuvent avoir aussi d'autres objectifs, simplement que la partie encyclopédie libre, qui devrait normalement être effectivement l'objectif principal. Donc ce savoir-vivre, il s'exprime comment, en fait, ces règles de savoir-vivre ? Il y a des règles précises ou... Comment ça s'exprime ?
Tout à fait. Alors, déjà, il faut réaliser, par exemple, la Wikipédia en langue française, donc la Wikipédia francophone, c'est une petite ville, c'est 18 000 personnes. Donc il faut forcément qu'ils viennent d'horizons très, très divers.
Alors, quand tu dis que c'est une petite ville par rapport à... Alors, prenons les États-Unis. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui contribuent ?
Sur la Wikipédia anglophone, ça doit être 50 000. Mais...
D'accord, ok.
Mais elle est anglophone, elle n'est pas seulement américaine.
D'accord. Parce que 18 000, ça paraît pas forcément petit, mais bon. Peut-être qu'à l'échelle de Wikipédia, c'est petit.
Non, non, je disais une petite ville, enfin, une ville de taille moyenne pour la France, par exemple. Mais donc, du coup, forcément, et comme les personnes viennent d'horizons différents, il peut y avoir un grand universitaire qui collabore avec un adolescent, par exemple. Donc, il faut tout un tas de règles parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect collaboratif est très important. Et malheureusement, on le voit régulièrement. Il y a des bons Wikipédiens qui ont tout un... qui seraient très utiles à l'encyclopédie pour partager leurs connaissances, mais qui sont incapables d'accepter de collaborer avec d'autres personnes qui essayent de s'approprier les articles. Donc il y a tout un tas de règles, d'us et coutumes qui se sont mis en place pour que les gens puissent collaborer et s'entendre, même en étant très, très différents et de points de vue divers et variés.
Oui, parce que ce que tu dis est intéressant, parce que c'est vrai que le fait de retrouver quelqu'un qui est un spécialiste, une personne qui est spécialiste d'un sujet, commencer à débattre, à discuter sur le contenu d'une page avec une personne qu'elle ne connaît pas et qui est peut-être jeune ou qui peut-être dans son esprit manque de connaissances, c'est une remise en question, en tout cas personnelle. Il faut pouvoir dialoguer. Donc on peut être très bien expert dans son domaine et sans être capable de dialoguer avec les autres pour contribuer. Et c'est quand même, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, libre mais collaborative. Alors j'ai une question plus personnelle. Comment vous êtes venue, vous, à Wikipédia, Nadine?
Ah. Comment j'y suis venue?
Qu'est-ce qu'était le déclic? Tu t'en souviens?
Mon horreur des fautes d'orthographe, je crois. Il me semble que les premières modifications, ça me démangeait de venir corriger. Je voyais une faute dans un texte, parce que je la consultais, bien sûr, hein, l'encyclopédie déjà. Elle était vraiment petite à ce moment-là. Beaucoup d'ébauches, beaucoup d'articles très, très courts. Mais on sentait quand même ces articles très, très courts. Ils existaient, ils avaient ce mérite d'exister. On sentait le potentiel qui était là. Et oui, peut-être c'est ça au départ. Et puis, des références. Il se trouvait aussi qu'à l'époque, je travaillais comme traductrice d'un grand érudit. Et donc, j'étais plongée dans des domaines d'érudition, oui, enfin, qui étaient merveilleux, mais que je découvrais. J'apprenais chaque jour, chaque page que je traduisais, j'apprenais plus qu'en une année de fac. Et puis, j'avais envie de transmettre. Je me disais, mais c'est fou, parce que ça va être dans un livre, bon, je vais le traduire, ça va être... Qui va acheter ça? Personne, ça va pas être lu, ça va s'empoussiérer quelque part, alors que c'est formidable. Ah bon, cet auteur existait, et puis, etc. Enfin, l'envie de faire connaître plus.
D'accord.
Et puis c'est assez... alors, plus égoïstement, c'est assez valorisant, en fait. On est content, on est fort, même si c'est une petite chose, même si c'est un petit paragraphe, même si c'est une petite phrase, si on est content de soi.
Que cette phrase soit sur l'encyclopédie, mais oui, ça apporte une satisfaction personnelle,
oui,
et ça c'est essentiel.
C'est très important.
Bien sûr.
Et puis ça va peut-être être traduit d'ailleurs, parce que Wikipédia, c'est pas en une seule langue, c'est mondial. Donc peut-être on va pouvoir ajouter une information à un article, et puis ça va être traduit dans je ne sais combien de langues, des langues tellement rares qu'elles n'ont presque plus de locuteurs. On a quand même des Wikipédias formidables pour ça. Certaines Wikipédias avec très très peu de contributeurs sont des réceptacles de la langue en ce moment. Il y a des langues dans lesquelles il n'y avait pas de dictionnaire écrit. C'est un travail de... Oui, enfin, je suis très admirative du projet. J'ai pas perdu l'enthousiasme. Pour moi, c'est une cathédrale. C'est D'accord. un endroit où on est tous, on n'est pas anonyme entre nous, parce que on arrive à se connaître. C'est une ville de 18 000 personnes. Enfin, moi, j'ai vécu en province, en France, une ville qui faisait beaucoup plus d'ailleurs que 18 000. On arrive à connaître le monde. Hein. J'ai commencé sur l'encyclopédie en 2008. Ça fait... Oui, on commence à connaître les personnalités, sans avoir besoin de connaître leur identité civile.
Exactement. Et Pierre-Yves, toi, comment tu es venu à Wikipédia ?
Alors, moi, je me souviens plus exactement, c'était en 2004. C'était durant l'été, au lieu de rédiger mon mémoire de DEA pour aller en thèse ensuite, je m'ennuyais et j'ai commencé à améliorer les articles d'économie, donc ma passion. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je pensais ne pas avoir assez de diplômes. Et donc, je laissais des commentaires en page de discussion.
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, donc Tu modifiais des pages ou tu rajoutais en discussion?
Je suggérais des améliorations.
Mais te sentant pas suffisamment à la hauteur, tu les suggérais simplement en disant « Quelqu'un d'autre de mieux placé que moi va intégrer ça dans la page principale », c'est ça?
Oui, comme quoi la première étape, c'est d'oser modifier une encyclopédie. C'est vrai que le terme « avoir appelé en Wikipédia encyclopédie » peut faire peur. Et même en ayant Bac plus 5... je ne me sentais pas capable et avoir le droit de modifier ce wiki qui était en libre accès en plus.
Alors qu'est-ce qui a apporté le fait que tu t'es à un moment senti capable de modifier directement la page? Est-ce que c'est parce que les gens ont mis en ligne tes propres modifications et t'ont dit « bah vas-y directement »
Je ne crois pas, j'ai été bien accueilli, puis après assez vite j'ai vu que j'étais en fait plus diplômé et plus qualifié que les autres wikipédiens, et donc il fallait que je me mette à modifier, à améliorer l'encyclopédie.
D'accord. C'est beau ce que dit Pierre-Yves, parce que c'est une forme de respect aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité. Bon, au départ, j'avais peur qu'on voit mon adresse IP.
C'était... Alors, ton adresse IP, c'est l'adresse de la machine depuis laquelle tu te connectes. Donc,
voilà.
Tu avais peur, pourquoi pas?
Parce que je n'avais pas choisi de pseudo. J'avais aucune idée du pseudo à prendre, d'ailleurs. Et chaque fois que j'allais pour modifier, on me disait, attention, on va voir votre adresse IP. Et là, j'imaginais qu'on allait me tracer, qu'on allait savoir qui j'étais. Donc, un jour, j'ai finalement créé un compte avec un bon pseudonyme. Et puis... mais j'osais pas, hein. Ça a duré des semaines. Je regardais, j'ouvrais, je voyais les articles après modifiés, je voyais l'apparence que ça avait en Wikicode, parce que maintenant, il y a un éditeur visuel. C'est quand même beaucoup plus
On n'est plus obligé de saisir
facile.
Manuellement les codes wiki pour modifier la page. Il y a un éditeur visuel qui permet de mettre en gras, par exemple, en sélectionnant le texte, en cliquant sur...
Comme si on était dans un traitement texte, un petit peu. Oui, c'est devenu plus simple. Mais au départ, on ouvrait et puis on voyait des signes un peu bizarres, un peu étranges. Moi, je ne suis pas informaticienne du tout. Et je trouvais ça un peu étrange. Alors, j'observais, j'allais voir un autre article, je regardais comment c'était fait. Enfin, j'ai beaucoup hésité. Il y a une forme de respect, oui. Du travail des autres, de ce qui est déjà écrit.
Bon, c'est très intéressant. On va justement essayer, après la pause musicale qu'on va faire, d'entrer un peu plus dans le détail, justement, pour les personnes qui, comme toi, quelque part, se disent « j'ai un peu peur de modifier, d'utiliser ce fameux bouton modifier ». On va en parler un peu plus en détail juste après la pause. Donc, la pause musicale, on va écouter un groupe qu'on a déjà écouté dans l'émission, mais qui a eu un grand succès, enfin, en tout cas, vu les retours qu'on a eus. Le groupe s'appelle Kylie Moss, et le titre s'appelle « The Next Market Day ».
Cause commune.
And they gone to Cumber, her market's too long. She went for her mummy, three hides of fine yarn. She met with a young lord down the highway, and it made this young lady too dirty and stray. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Triggins, your mommy to play. So lay by your young till the next market day. They sat down together, the grass it was green, the day was the fairest that ever was seen. The look in your eyes beats the morning of May. I could sit by all young till the next market day. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Triggins, your mommy to pay. So lay by your young till the next market day. And he learned me the tune called the next market day.
sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new cheer to learn. Here is Trig and it's your mommy to pay. So lay by all young till the next market day.
Vous êtes de retour, vous êtes toujours plutôt sur Libre à vous, sur Radio Cause Commune 93.1 et sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter donc Kylie Moss, le titre s'appelle The Next Market Day. Et si je me souviens bien, c'est un groupe belge qui lui aussi tourne comme demi-sel. Donc je vous encourage à aller les voir aussi sur scène. Donc nous sommes de retour pour continuer notre sujet sur Wikipédia, donc toujours avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin, donc de Wikimedia France, et on expliquera tout à l'heure ce qu'est Wikimedia France. On va poursuivre d'abord sur Wikipédia et ce fameux bouton modifié, cette crainte de vouloir contribuer à Wikipédia. Alors, j'ai envie de dire, comment une personne qui est sur une page Wikipédia, sur laquelle elle peut se dire, bah tiens, il y a des fautes d'orthographe, même s'il y en a beaucoup moins maintenant, hein, évidemment, mais peut-être des améliorations à apporter, comment cette personne peut faire? Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir, techniques ou autres? Voilà, comment on peut s'y mettre pour contribuer à Wikipédia? Qui veut intervenir là-dessus en premier? Pierre-Yves.
Je vais commencer. Ce qui est conseillé quand on est un nouveau contributeur, c'est d'améliorer un article, ne pas commencer par créer un nouveau sujet. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le travail d'encyclopédiste est un travail de synthèse. Donc, on ne veut pas l'avis des Wikipédias, on ne veut pas s'ils sont fans de foot ou de musique ou d'extrême gauche, par exemple. Non, ils doivent synthétiser les ouvrages qui font référence ou les articles de presse qui font référence sur le sujet. Donc c'est ça la principale qualité en fait, c'est savoir faire de la recherche bibliographique, faire le tri entre la bonne et la mauvaise presse, les fake news et le travail universitaire de qualité, et puis ensuite synthétiser l'information sans le plagier. Là c'est là où ça peut un peu
la devenir difficulté peut-être
complexe. Mais il faut bien savoir aussi c'est que la communauté fait un effort pour documenter l'aide. Elle n'est pas forcément à jour, hein, comme toutes les communautés du libre ont ce problème. Mais il y a tout un tas de pages qui permettent d'apprendre à contribuer petit à petit à Wikipédia. Il y a aussi des vidéos. Au sein de l'association Wikimedia France, on a fait un MOOC.
Donc c'est, un MOOC, c'est quoi?
C'est un cours massif en ligne, enfin c'est une sorte de vidéo interactive qui permettent d'en savoir un peu plus sur la façon de contribuer à Wikipédia.
C'est une formation en ligne à base de vidéos et d'autres outils, c'est ça?
Oui.
D'accord. Et j'en profite pour préciser donc que sur la page Wikipédia, comme tu le dis, en fait, les premiers liens qui apparaissent, c'est des liens aidant à contribuer. Donc, soit en vidéo, soit en texte, les questions-réponses les plus fréquentes. Donc voilà, tout de suite, on est dans le bain. Si on a envie de contribuer, on va sur wikipedia.fr et on n'utilise pas un moteur de recherche pour rechercher quelque chose et d'arriver sur Wikipédia. Hein. On va directement sur wikipedia.fr et ensuite, on suit les liens qui permettent de contribuer. Je te laisse poursuivre.
Oui, c'est la particularité. On essaye, même si on a un ratio très, très disproportionné hein, entre lecteurs et rédacteurs de l'encyclopédie. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, en France, il y a 30 millions de visiteurs uniques par mois. Et la Wikipédia francophone est constituée de 18 000 personnes. Mais la communauté essaye, idéalement, on aimerait que chaque lecteur devienne aussi contributeur de l'encyclopédie. Donc ça peut commencer, on peut commencer par juste corriger des petites fautes d'orthographe ou des petites erreurs factuelles de date, ou de rajouter un ouvrage, mettre à jour l'article aussi. L'article peut avoir quelques années, peut commencer à vieillir, et il manque des informations sur la biographie de la personne, ou sur un bon conseil en fait, c'est de commencer par ses passions en fait. C'est là qu'on
les sujets où on se sent à l'aise justement pour pouvoir contribuer.
Oui. Donc soit en fait parce que les Wikipédiens estiment que tout le monde a quelque chose, un savoir à apporter. soit du point de vue de sa formation, soit ses passions, si on fait de la guitare ou du chant ou on joue à un sport, soit ses lectures, soit ses études, soit le village ou la ville où on a grandi, etc. Donc ça, forcément, on a quelque chose à apporter à l'encyclopédie. Parce que maintenant, il y a plusieurs millions d'articles déjà créés. Donc, vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez des choses à apporter et vous êtes capable de synthétiser de l'information, soit qui se trouve ailleurs sur Internet, si elle est sous licence libre. Vous pouvez carrément la copier-coller, si la licence est compatible avec celle de Wikipédia, soit sinon aller en bibliothèque pour synthétiser ces informations.
Avant de passer la parole à Nadine qui hochait la tête et qui veut donc forcément intervenir, je vais citer le cinquième principe fondateur de Wikipédia. Donc là, je vais lire. Hein. Wikipédia n'a pas d'autres règles que les cinq principes fondateurs énoncés sur la page. Et ça se poursuit par « N'hésitez pas à être audacieux dans vos contributions puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'a pas à être parfait du premier coup. » C'est le droit à l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, Nadine.
Exactement. C'est très important. On ne peut pas faire de grosses bêtises, en fait, sur un wiki, puisque dans l'historique, on peut revenir très facilement à la version précédente ou encore celle d'avant. On ne fait rien d'irréparable. Si on vient et qu'on fait les choses de bonne foi, quelqu'un va venir derrière et améliorer ou donner un conseil. Il y a des gens de très très bonne volonté. Par exemple, il y a un service, je ne devrais pas dire ça, mais d'accueil des nouveaux.
Explique-nous ça.
L'accueil des nouveaux, ils se proposent, ce sont des Wikipédiens ou des Wikipédiennes qui se proposent marraines des nouveaux. Si vous avez envie d'être encadré, mais ce n'est pas du tout une obligation non plus. Le wiki est très transparent, c'est une société... panoptique, comme décrivait Foucault, c'est cette société où tout le monde peut voir tout le monde. Tout ce qu'on écrit est vu presque à la seconde, dès qu'on appuie sur publier. Quelqu'un regarde, peut-être quelqu'un ne regarde pas, on ne sait pas. On peut aussi travailler dans son coin et puis ne rien demander à personne, c'est tout à fait faisable. Mais on peut aller demander de l'aide. Et là, il y a vraiment des gens de très bonne volonté. Ils font ce qu'ils peuvent dans les sujets qui les concernent ou qui les intéressent, ou le temps qu'ils ont à y consacrer aussi. C'est du bénévolat, ça prend beaucoup de temps quand même.
Et comment se passe cet échange? C'est par courriel? C'est sur des pages wiki spéciales?
Non, tout se fait sur le wiki.
Tout se fait sur le wiki, d'accord.
Tout se fait sur le wiki. On peut passer par un échange plus privé, enfin, ça, certaines personnes le font peut-être, mais non, tout se passe visiblement, soit sur la page discussion d'un utilisateur, la page de discussion d'un article, le lieu de rencontre d'un projet. Vous pouvez par exemple vous intéresser à l'histoire militaire et puis vous retrouver, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bistrot de l'histoire militaire, mais enfin il y a quelques contributeurs, contributrices qui s'intéressent à ce sujet et qui seront ravis de vous accueillir si vous avez une passion pour ce sujet-là.
D'accord, donc ça c'est l'onglet discussion qu'il y a sur toutes les pages Wikipédia.
Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est facile en fait, il ne faut pas hésiter et puis on a tous quelque chose à apporter. On a l'histoire des sources, d'aller en bibliothèque, etc. Il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'on dirait qu'on sort de la faculté et puis qu'il y a un prof qui nous demande d'aller faire des recherches, je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. On peut aussi avoir un monument historique dans sa commune de 200 habitants, la croix, le calvaire, je ne sais quoi, et qui n'est toujours pas illustré sur Wikipédia. On peut prendre la photo avec son téléphone. On essaie de la faire nette plutôt que floue, c'est mieux. Mais ça va documenter. On a le droit, on fait soi-même la photo, on a le droit de la poser. On a déjà moins le droit d'aller prendre un livre paru sur le sujet et puis de prendre la photo du photographe, même si elle est magnifique, puis de la mettre. Ça, on n'a pas le droit. On doit mettre des choses qui sortent de nous. Mais ça peut être des très petites choses. Je me rappelle un jeune garçon qui contribuait sur le catch et qui était dyslexique. Et il avait vraiment un enthousiasme à communiquer ce qu'il savait sur le catch, ça le passionnait complètement, qui revenait sans arrêt, il fallait passer derrière lui, il fallait le corriger. Bon, c'était un peu fastidieux pour ceux qui suivaient les articles, mais c'était merveilleux de voir à quel point son envie de partager passait au-delà de ce handicap qu'est la dyslexie. Enfin, tant pis, ça fait rien, c'est dyslexique, mais j'y vais parce que je veux trop le dire, il faut que je le dise.
D'accord. Là, on est sur l'aide, on va dire, en ligne, la contribution en ligne. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques entre Wikipédiens et Wikipédiennes, notamment en France ? On va parler que de la partie française.
Oui, notamment là, à l'heure actuelle, le mois de mars, il y a tout un tas d'activités parce que c'est le mois de la contribution francophone qui a lieu donc une fois par an, au mois de mars. Donc, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 50 ateliers de prévus dans 12 pays différents de la francophonie. Et notamment, là, en France, il y a énormément d'activités. Par exemple, vendredi prochain, à l'UNESCO, il va y avoir un très grand atelier pour un peu féminiser l'encyclopédie.
Alors, qu'est-ce que tu appelles féminiser l'encyclopédie ? C'est féminiser les contributions des personnes qui contribuent ou...
Il y a les biais dans les deux sens. Il y a le contenu. Enfin, ouais. Évidemment, il y a beaucoup moins de biographies de femmes que d'hommes. Et aussi, au sein de la communauté, malheureusement, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'on ne demande pas trop d'informations personnelles. On ne collecte pas trop de données personnelles sur les contributeurs ou contributrices, mais les chercheurs qui ont fait des sondages estiment autour de 15-20% de femmes qui contribuent à Wikipédia. Et donc, on aimerait un peu diversifier cela. Et donc, il y a tout un tas d'ateliers. Et en France, ces activités sont réunies sous le nom de les ateliers Les 100 pages, qui ont lieu un peu partout en France, dans 5 ou 6 villes, je crois, une fois par mois. Donc n'hésitez pas à faire une recherche sur votre moteur de recherche préféré et à vous rendre dans ces ateliers. Ça permet aussi de rencontrer des Wikipédiens, des Wikipédiennes expérimentés, confirmés, qui vont vous aider parce que des fois, c'est vrai que les premières étapes peuvent être un peu plus compliquées. Et puis, on a toujours des questions. Et puis, c'est une façon conviviale de rédiger des articles. Moi, le week-end dernier, je suis allé à un atelier, par exemple, pour rédiger Wikipédia.
Oui, ce qui permet aussi donc, une rédaction collaborative de visu, en fait, dans la même pièce, quelque part. Donc, ce qui complète la collaboration naturelle de Wikipédia sur le site. Donc ça, c'est des événements donc, physiques. Et donc, il y a des personnes spécialistes de Wikipédia, donc des Wikipédiens ou Wikipédiennes, c'est comme ça qu'on les appelle, donc qui vont aider les personnes à faire quelque part leur première contribution ou des contributions un peu plus importantes. Par exemple, je suppose que, par exemple, il est plus difficile de créer une nouvelle page sur un sujet que de modifier une page qui existe déjà.
Oui, ça je le déconseille vraiment pour les débutants, les grands débutants qui commencent à modifier l'encyclopédie, parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle des critères d'admissibilité pour s'assurer de la fiabilité du contenu de Wikipédia. En fait, tout n'est pas autorisé parce que comme je le disais, c'est surtout un travail de synthèse. Donc s'il n'y a rien à synthétiser, là, on va tomber dans ce qu'on appelle le travail inédit, la recherche originale. Et en fait, le Wikipédia ne doit pas se substituer aux journalistes ou aux chercheurs, parce que sinon, il n'y aurait aucun moyen de vérifier l'information. C'est pas une encyclopédie signée, contrairement à Universalis, où là, c'est un spécialiste qui engage son nom, sa notoriété, et n'a pas forcément besoin de lister ses sources. Lorsqu'il rédige un article sur Wikipédia, en fait, vous allez tout en bas de l'article, il y a une grande section références, qui permettent de vérifier toutes les informations qui sont contenues dans cet article.
C'est vrai que donc, la base de sources est très importante, et ça me fait penser aussi que tu parlais de biographie tout à l'heure, sauf erreur de ma part, on ne peut pas créer sa propre page pour faire parler de soi sur Wikipédia.
C'est fortement déconseillé.
Donc, je dis ça parce que j'ai eu des questions récemment en me disant, tiens, pourquoi telle personne n'a pas de page ? Est-ce que la personne pourrait le créer ? Et je lui ai expliqué, non, ce n'est pas le mode de fonctionnement.
Ça étonne encore des gens, mais si on pense plutôt à des politiciens ou des entreprises, on ne concevrait pas que Renault rédige la fiche sur son entreprise ou que Carlos Ghosn modifie lui-même sa biographie.
Justement, j'ai une petite question, je pensais pas en parler, mais comment est géré ce genre de cas où une entreprise ou un responsable politique tente subrepticement de modifier sa page en se cachant derrière un pseudo, mais dont l'adresse IP en fait révèle que, par exemple, c'est le siège de telle entreprise ou de tel groupe politique ? Comment c'est géré en interne, ça ?
Alors, ça dépend du type de modification. Si c'est des modifications factuelles, notamment...
Alors, je parle de modifications pas du tout factuelles, mais au contraire pour mettre en avant quelque chose ou en tout cas pour se faire de la pub ou autre.
Là, souvent, ça se passe mal parce que déjà, ils ne maîtrisent pas les codes de Wikipédia, ou même le style d'écriture. Souvent, les services de communication de ces entreprises sont incapables d'écrire dans un style encyclopédique et vont forcément mettre en avant... Enfin, l'entreprise est forcément première sur son marché. On se retrouve avec plusieurs premiers sur le même marché, bien souvent. Donc, c'est assez facile. Et en plus, comme on parlait du droit d'auteur, souvent, ils se contentent de faire un copier-coller du site officiel de l'entreprise. Bien souvent, en fait, c'est des stagiaires à qui on demande. C'est des petits jeunes qui viennent de débarquer dans l'entreprise. Ils disent, bah, tiens, toi, tu dois maîtriser Wikipédia, donc tu vas être chargé d'améliorer l'article. Y a aussi des points de vue. En fait, ils n'ont aucune considération pour l'histoire. Donc, ils ne s'intéressent pas du tout. Même si l'entreprise a un siècle, ils vont virer toute la partie historique.
Ils vont carrément virer la partie... Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. C'est très facile à détecter, en fait, ce genre de modification. Pareil pour les personnalités. Ces articles sont très surveillés. Ce qu'on appelle les biographies de personnes vivantes. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de risques juridiques, de diffamation, tout ça, d'insultes. Donc, ce qu'on appelle les patrouilleurs, c'est les Wikipédiens qui vont surveiller un peu l'encyclopédie en temps réel. Là, si on regarde, il doit y avoir quelques dizaines de Wikipédiens bénévoles qui protègent l'encyclopédie. Parce que c'est un bien commun et en fait, elle est vandalisée. Soit des vandalismes bêtes et méchants, soit des gens un peu plus malhonnêtes. Et donc, il faut protéger ce bien commun.
D'accord. Tu parlais des personnalités vivantes. Je suppose que ça arrive aussi sur les personnalités qui viennent de récemment mourir. Et si je me souviens bien, il y a un bandeau quand il y a une personnalité qui vient de mourir. Alors, je ne sais plus quel texte est expliqué, mais justement en disant faites attention, les pages vont être modifiées rapidement, il peut y avoir des choses fausses, etc. Quoi. Alors, le temps passe vite à la radio. Ça me fait penser, tu viens de parler du mot important « bénévole ». Mais il n'y a pas que des bénévoles. Alors, je précise que tous les deux, donc, vous êtes bénévoles au sein de Wikimedia France. Et donc, justement, ça va nous permettre de parler un petit peu de la structure qui, pas entre guillemets, qui gère, je ne sais pas, vous emploierez le terme que vous voulez, mais derrière, en fait, Wikipédia, il y a aussi une fondation, donc Wikimedia, donc Fondation US, et puis il y a des structures locales. Et donc, vous êtes Wikimedia France. Alors, deux questions. À quoi sert la fondation américaine Wikimedia? Et à quoi sert la version, on va dire, française, Wikimedia France, dont vous êtes respectivement président et secrétaire? Donc, qui veut commencer? Nadine? Non? Toujours Pierre-Yves?
Oui, Nadine. Pourquoi pas. La fondation américaine gère les serveurs. Ça, c'est une différence fondamentale. Donc, ce sont des données énormes qui circulent sur toute la planète. Eux gèrent les serveurs.
Donc les machines physiques, les grosses machines physiques qui hébergent les données dans plusieurs coins de la planète.
Exactement, qui sont des champs d'ordinateurs, en fait, à droite, à gauche. Et les chapitres, ils appellent ça chapitres, enfin bon, les associations locales sur la planète, soit géographiques, donc nous, Wikimedia France, ou bien des associations locales thématiques, et puis plus transversales, qui peuvent aller d'un pays à l'autre. Enfin, ça peut être sur un sujet, un thème. Ces associations, en fait, demandent des subventions, en quelque sorte, on va dire, pour fonctionner. Éventuellement, peuvent en obtenir de la fondation. Et surtout, la première chose, c'est montrer la participation qu'on a dans les projets pour obtenir le droit de s'appeler Wikimedia quelque chose. Wikimedia, groupe d'utilisateurs, Wikimedia France, Wikimedia Deutschland, enfin, etc. Tout ce monde-là travaille aux mêmes choses, finalement. Mais la partie fondation ou la partie association n'ont aucune responsabilité éditoriale.
Donc ça, c'est important finalement, de le préciser. Le contenu est produit par les Wikipédiens
exactement,
et Wikipédiennes.
Finalement, on a aucun droit, enfin, si on est Wikipédien soi-même, bien sûr, on peut aussi écrire dedans, heureusement, c'est pas interdit, mais on n'a vraiment aucune responsabilité là-dedans, quoi. Ça... Et puis aucun mérite. Le mérite, c'est les Wikipédiens, les Wikipédiennes, enfin, c'est ceux qui bossent tous les jours, les patrouilleurs, les créateurs d'articles, toutes les différentes catégories de Wikipédiens, les correcteurs d'orthographe.
Alors, tu as dit que Wikimedia France, avant de venir sur Wikimedia France, tu as dit que la fondation Wikimedia gérait les serveurs, mais gère aussi je suppose, les problèmes juridiques, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de problèmes juridiques. Et c'est sans doute aussi un des rôles que joue Wikimedia France, parce que vous avez une équipe salariée à Wikimedia France. Je ne sais plus combien de personnes, mais tu vas me dire. Et donc, quel est le rôle de Wikimedia France, donc à la fois sur les aspects juridiques, d'un point de vue accompagnement des personnes qui veulent débuter, peut-être aussi les relations avec les pouvoirs publics, notamment français. Donc, Pierre-Yves Baudouin.
Alors, le gros volet juridique, en fait, est géré par l'hébergeur, donc la Wikimedia Foundation. Quand il y a des problèmes concernant le contenu hébergé sur les sites Wikipédia. Mais c'est vrai que l'autre aspect important, notamment de plaidoyer et de point de contact avec les autorités et avec le législateur, est assuré en France par Wikimedia France. Et donc, notamment, il y a quelques semaines, j'étais intervenu sur la directive droit d'auteur.
De notre émission, je précise.
Donc voilà, c'est tout un tas de... En fait, les affiliés, les organisations Wikimedia ont un rôle un peu de représentation. C'est vrai que, comme le rappelait Nadine, Wikipédia est un site autogéré qui fonctionne de lui-même. Mais après, il a fallu avoir un peu des représentants ou des personnes qui permettent d'expliquer le fonctionnement de cette encyclopédie, notamment aux autorités. Et donc, c'est notamment mon travail au sein de Wikimedia France. Donc, à l'heure actuelle, on a 9 salariés qui montent des projets, principalement dans deux axes, l'éducation et la culture, dans le but de favoriser la contribution, comme je le disais, que les internautes deviennent aussi acteurs et se mettent à modifier l'encyclopédie, soit un particulier de chez lui. Donc, on essaye de faciliter la contribution, notamment on a développé le MOOC là, qui s'appelle Wikimook, soit les institutions aussi qui ont beaucoup de contenu, soit dans le domaine public, soit on les incite à adopter les licences libres, comme par exemple les archives nationales qui ont basculé il y a quelques années. Et donc voilà, on accompagne ces institutions parce que même quand une fois qu'elles ont fait l'étape juridique, donc déjà de convaincre leur département juridique et leur hiérarchie de choisir les licences libres. Après, il y a un besoin quand même de formation. Ce sont des nouvelles pratiques, le travail collaboratif, la contribution à Wikipédia ou aux autres projets frères du mouvement Wikimedia. Donc elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc c'est là où Wikimedia France intervient.
D'accord, donc vous accompagnez à la fois les personnes individuelles et puis les institutions françaises. Et est-ce que vous ressentez un progrès de ce côté-là par rapport aux institutions françaises ? Une meilleure prise en compte, mais une meilleure participation des différentes institutions françaises, que ce soit les bibliothèques ou autres?
Oui, énormément. Moi, j'étais déjà président il y a 10 ans. Et le plus frappant, c'est dans le domaine de l'éducation nationale. L'éducation nationale voulait nous voir disparaître. Ils nous voulaient essayer de faire l'autruche et de ne pas parler de Wikipédia pendant pas mal d'années. Et donc, en fait, maintenant, c'est incontournable. Et ils préfèrent encadrer
l'usage de Wikipédia, notamment par les élèves, dont je parlais tout à l'heure.
Donc, on a notamment un projet avec notre partenaire du CLEMI pour, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Maintenant, c'est les fameux fake news. Mais en fait, ce travail existe depuis longtemps, et cette problématique aussi. Et donc, on peut maintenant utiliser Wikipédia comme support pédagogique, en fait, un peu plus sexy, ou qui va intéresser les jeunes pour les éduquer au traitement de l'information, à détecter des infox, etc. Et donc, il y a la même chose aussi dans le domaine de la culture. Et très récemment, par exemple, je reviens à l'éducation, il y a des parlementaires qui ont même proposé un amendement Wikipédia pour inciter les enseignants à contribuer, à faire contribuer leurs élèves et à enseigner Wikipédia. Et on n'était même pas impliqué, Wikimedia France n'était même pas impliqué dans
C'est pas vous qui avez suggéré ces amendements. Donc, je suppose que c'est dans le projet de loi pour une école de la confiance. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le même retour d'expérience dans le logiciel libre, parce qu'il y avait des amendements priorités au logiciel libre dans ce projet de loi qui n'étaient pas issus d'une action de l'April ou d'autres personnes, simplement des parlementaires qui ont compris depuis quelques années cette importance et qui ont donc déposé cet amendement. Malheureusement, je pense que l'amendement Wikimedia a dû être retoqué, mais je précise que le projet de loi va arriver au Sénat très bientôt et que le Sénat montre des fois des capacités d'innovation et d'avancée beaucoup plus importantes que l'Assemblée nationale. Donc on verra ça. Le temps passe vite, on va bientôt terminer. Je vais relayer une question qu'il y a eu tout à l'heure sur le salon web. Alors la question, c'est: Wikipédia a-t-elle remplacé les encyclopédies papier, d'après vous?
Oui, probablement.
J'aurais tendance à dire.
Ouais. Ah oui, il me semble d'ailleurs, au point de vue de la fiabilité, Wikipédia est finalement plus fiable. Il y a eu des études...
Oui, c'est un point important, la fiabilité, parce que ça a été souvent mis en cause.
Il y a des études très, 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 très poussées et puis très étonnantes sur la Wikipédia anglophone, notamment au niveau de la médecine, par exemple, je pense. La médecine, les articles de médecine ne semblaient pas... ça semble un sujet délicat, sensible. Et on s'est aperçu, cette étude a montré qu'il y avait moins d'erreurs, parce que finalement, il y a une mise à jour continuelle des sujets, moins d'erreurs que dans une encyclopédie papier qui est figée. On pourrait dire sur des sujets plus littéraires qu'il y a moins de parti pris, puisque c'est écrit collaborativement. On n'a pas une personne qui vient et qui s'approprie un sujet. Lisez le Larousse du 19e siècle. Je l'ai encore chez moi, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. mais dans cette encyclopédie, parfois, certains articles sont vraiment à mourir de rire. On sent bien qu'il y a une personne qui l'a écrit, puis personne n'est venu lui dire « Attends, t'as écrit n'importe quoi !» Donc oui, on remplace. Ouais.
D'accord. Le sujet va se terminer, parce que le temps passe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être pour encore plus encourager les personnes à devenir contributrices sur Wikipédia ?
Moi, je voudrais ajouter une chose. Bien sûr que le but et ce qu'on aimerait, c'est que les gens contribuent. Il y a cet onglet « Modifier », je vous assure. Modifier, essayez de modifier. Allez-y, vous avez tous quelque chose à apporter. Mais il y a aussi ceux qui resteront lecteurs et merci de nous lire. Merci, continuez à nous lire et on va continuer à bosser pour vous. Mais soyez quand même bien conscients que cette encyclopédie est modifiable à tout instant. Et gardez votre esprit critique. Nous, en tant que Wikipédiens, on essaie d'avoir un esprit critique, on essaie de faire attention à nos sources, les comparer, les peser. Et vous, en tant que lecteur, votre mission, c'est aussi de nous mettre en cause. C'est aussi de faire attention, de comparer, de revenir, d'aller dans ce bas de page-là qui est les références et d'aller voir les sources, finalement. Voilà. Je crois qu'on a vraiment besoin d'esprit critique, tous. Ça fait défaut.
D'accord. Pierre-Yves, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
J'évoquerai peut-être un projet en cours qui est destiné à mettre un Wikipédia en résidence dans une institution culturelle. Donc ça s'appelle le Wikipédia en résidence. On est en train de faire un financement participatif pour financer un poste aux Archives nationales. Donc comme je l'expliquais, les Archives nationales ont énormément envie de collaborer avec les projets Wikimedia, mais ont besoin d'être formés. Tout leur staff a besoin d'être accompagné dans ça. Et donc voilà, on est en train de collecter de l'argent pour envoyer quelqu'un qui va pas être payé pour rédiger les articles de Wikipédia, mais qui va former le staff, l'équipe salariée des archives, afin qu'ils le fassent eux-mêmes, après, et notamment après le départ de ce fameux Wikipédia en résidence.
D'accord. Donc les Archives nationales à Saint-Denis ou...
À Pierrefitte, oui.
À Pierrefitte, oui, excuse-moi. C'est juste à la limite. Bon, je précise, j'habite Saint-Denis, donc j'ai... Excusez-moi cette erreur, mais effectivement, c'est à Pierrefitte. Bah, écoutez, merci Nadine, donc le Lirzin, secrétaire de Wikimedia France, et Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Nous allons faire une pause musicale. Le titre, c'est Optimisms, et l'artiste, c'est Minda Lacey. Et on se retrouve juste après.
Cause commune. Deep, I realize the walls are crumbling.
êtes toujours sur Libre à vous, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Nous venons d'écouter donc Optimisms de Minda Lacy. C'est en licence libre également. Vous trouvez la référence sur le site de l'April. Donc nous allons passer maintenant au sujet suivant, la première chronique donc de Noémie Berger qui est avocate au cabinet Dune. Donc bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors ta première chronique va porter sur la notion d'originalité dans le droit d'auteur. Alors je te passe la parole.
Exactement, bonjour à tous. Donc effectivement cette première chronique est consacrée à l'originalité en droit d'auteur. Donc après une première présentation un peu sur le droit d'auteur qui est une branche du droit de la propriété intellectuelle, nous attarderons un peu sur l'originalité en logiciel et puis nous finirons par quelques réflexions sur l'originalité en matière de logiciel libre. Concernant donc le droit d'auteur, donc le droit d'auteur c'est une composante du droit de la propriété intellectuelle. Il y existe deux branches en droit de la propriété intellectuelle. La première qui est la propriété littéraire et artistique, et ensuite nous avons la propriété industrielle. Donc le droit d'auteur se rattache à la propriété littéraire et artistique au même titre que les droits voisins du droit d'auteur, que les droits des producteurs. Et la deuxième branche, c'est la propriété industrielle qui, elle, est composée du droit des marques, droit des dessins et modèles, droit des brevets. Donc ces règles, elles sont réunies dans le code de la propriété intellectuelle qui est codifié depuis 1992. Il faut savoir que pour le droit d'auteur, il existait deux lois avant 1992, une loi de 1957 et une loi de 1985. Donc plus spécifiquement concernant la protection par le droit d'auteur. Ce qui est vrai, c'est qu'en matière de propriété industrielle, lorsqu'on veut protéger, par exemple, en droit des marques, une marque, on va déposer une demande auprès d'un organisme. À la différence en droit d'auteur, c'est qu'il n'existe aucune formalité, aucun enregistrement est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection. On a dans le code de la propriété intellectuelle un article qui est L111-1 qui nous dit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Et cet article, eh bien, il est complété par un autre article qui dit que l'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Ce qui signifie qu'en réalité, eh bien, il suffit qu'il y ait une forme, peu importe que l'œuvre soit achevée ou pas, mais on peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur si on a une forme. Alors, dans le code de la propriété intellectuelle, il existe des articles qui viennent un petit peu nous expliquer ce qui est protégé. L'œuvre est protégée quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination. Et on a aussi une liste qui est non exhaustive d'exemples d'œuvres susceptibles d'être protégées. Donc on va avoir les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les logiciels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le code de la propriété intellectuelle, il n'existe pas d'article imposant une condition. Or, en réalité, on a l'impression qu'il n'y a pas de critère pour que l'œuvre soit protégée. En réalité, il en existe un, qui est une seule exigence, une unique, qui est l'originalité. L'originalité, on la retrouve nulle part dans le code de la propriété intellectuelle, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même une référence qui concerne les titres des œuvres, puisque l'article L112-4 dispose que le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégée comme l'œuvre elle-même. Et c'est la seule référence qu'on retrouve dans le code à la notion d'originalité. Ce caractère original, il a été en fait affiné, défini par les juridictions, qui, pour les œuvres de l'esprit, nous indiquent qu'en fait l'œuvre est protégée si elle comporte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc ce qui signifie le reflet de sa personnalité, qui est un caractère extrêmement subjectif. Et donc, c'est vrai que par rapport à d'autres matières, comme le droit des marques. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il existait des formalités en droit des marques ou en droit des brevets. On peut trouver en droit d'auteur des moyens pour protéger un petit peu son œuvre. On pense notamment au dépôt du logiciel auprès de l'Agence pour la protection des programmes, l'APP. On pense aussi à l'enveloppe solo. On peut aussi s'envoyer l'œuvre en recommandé, en conservant le recommandé sans l'ouvrir. Alors, tous ces moyens, ce sont des moyens qui vont permettre d'établir la titularité des droits, qui vont permettre d'établir la date de l'œuvre, mais en aucun cas, ça va permettre automatiquement de bénéficier d'un droit d'auteur sur l'œuvre. Parce que c'est vrai que finalement, ce sont seulement les juges qui sont en mesure de dire si l'œuvre est ou non originale. En matière de logiciel, et là aussi c'est assez intéressant parce que la notion d'originalité, elle n'est pas exactement la même que pour les autres œuvres. En France, c'est la loi du 3 juillet 1985 qui protège le logiciel sous le bénéfice du droit d'auteur. Et donc finalement, le législateur considère que l'originalité ne va pas résulter du seul genre de l'œuvre, c'est-à-dire que même si dans le code de la propriété intellectuelle, le logiciel est visé, c'est pas la condition, il faut la condition d'originalité pour pouvoir bénéficier d'une protection. Et ça a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 1986 où les juges ont jugé que un logiciel est original lorsque son auteur fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. Donc en fait, si on compare cette définition avec la définition de l'originalité qu'on a vue tout à l'heure, à savoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on s'aperçoit que pour les logiciels, la définition de l'originalité est assez différente, et on ne retrouve pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'originalité, elle est précisée également dans la directive du 23 avril 2009 pour les logiciels, dans lequel il est clairement dit que un programme d'ordinateur est protégé s'il est original. Donc vraiment, voilà, on en revient à cette condition, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur et qu'il n'existe aucun autre critère qui ne peut s'appliquer pour bénéficier de la protection. Donc, le programme d'ordinateur peut être protégé. Comme pour les œuvres, les autres œuvres, les idées, les principes ne sont pas protégés. Donc, pour bénéficier de la protection sur un logiciel, eh bien, on peut considérer que l'organigramme du programme va être protégé, le code source, le matériel de conception préparatoire peut également être protégé. La question qui se pose, c'est que généralement l'originalité, en fait, quand il n'y a pas de difficulté, personne ne s'interroge vraiment sur l'originalité. L'intérêt de l'originalité, il va arriver au moment de litige, puisque quand on rédige des contrats de cession de droits d'auteur, des licences, la notion d'originalité, elle n'apparaît pas dans ces textes. Généralement, l'originalité va se poser dans le cadre d'un contentieux où un défendeur, qui est généralement dont on reproche une contrefaçon, va avoir à se défendre sur les faits qui lui sont reprochés, la contrefaçon, et va opposer comme moyen de défense le fait que l'œuvre n'est pas originale. Et dans ce cas-là, ça va être au demandeur, à celui qui est l'auteur, eh bien, d'apporter la preuve devant les juges que son œuvre est originale. Ça fait partie des règles assez classiques en matière de procédure civile. Et ce qu'on voit souvent, c'est que l'auteur va devoir décrire dans ses conclusions, donc de manière très précise, en quoi l'œuvre, si on est en dehors du logiciel, eh bien, comporte l'empreinte de sa personnalité, ou en quoi l'œuvre, si on est dans le cadre d'un logiciel, eh bien, il a fait un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatisée. Et ce sont vraiment ces descriptions qui vont être appréciées par les juridictions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut spontanément démontrer cette originalité quand on saisit une juridiction, ou est-ce qu'il faut attendre que finalement l'adversaire conteste l'originalité pour éventuellement avoir à s'en justifier. Alors là-dessus, il existe un peu deux cas d'école. Parfois, certaines juridictions vont dire que finalement, c'est l'auteur qui se prévaut du droit d'auteur qui va devoir expliciter les contours de l'originalité. Il est le seul à pouvoir le faire. Et dans d'autres cas, eh bien, les juridictions vont considérer que finalement, dans la mesure où l'originalité n'est pas contestée par l'adversaire, cette question n'a pas à être motivée dans la décision de justice, et donc les juges vont passer outre et vont considérer qu'il n'y a pas de débat sur l'originalité puisqu'elle n'est pas contestée. Ce sont les règles assez classiques en matière de code, qui s'appliquent dans le cadre de la procédure civile, où finalement le juge va se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé, et il ne va pas interagir sur d'autres éléments hors du débat. Ça m'amène justement à une réflexion en matière de logiciel libre, puisque là, dans le cadre du logiciel libre, on a un auteur qui décide de distribuer son œuvre sous une licence qu'il a choisie. Et la licence, elle va définir les conditions dans lesquelles les autres utilisateurs vont pouvoir utiliser son œuvre. Donc il détermine finalement les droits d'auteur qui vont pouvoir être exploités par les autres utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs qui finalement se soumettent à la licence en utilisant l'œuvre, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que, en cas de contentieux, est-ce qu'il serait légitime à contester l'originalité? Parce que d'une certaine manière, est-ce que, si on considère qu'il y a une violation de la licence, qu'ils n'ont pas respecté cette licence, on tomberait dans la contrefaçon. Et donc, l'autorisation qui leur avait été initialement consentie tombe. Et est-ce qu'ils seraient en mesure, de, pour se défendre, de dire bah « Non, finalement, il n'y a pas de contrefaçon parce que l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur. » Et cette question, elle amène à réfléchir sur deux notions qui est la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Les juridictions aujourd'hui sont de plus en plus concernées par cette vraie question juridique de savoir, dans le cadre d'une exploitation sur un logiciel où on a souvent des licences, hein, c'est vrai que c'est une œuvre de l'esprit qui implique souvent la rédaction de licences et le fait qu'il y ait une licence qui a été conclue, eh bien dans ce cas-là, c'est vrai que les juridictions sont souvent un peu... Elles ne savent pas encore si elles doivent considérer que la violation de la licence tombe sous le coup de la simple responsabilité contractuelle où on est dans le cadre d'un contrat qui n'a pas été respecté, ou si on est vraiment dans la contrefaçon telle qu'elle est prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Et dans certains cas, c'est vrai que les juridictions ont bien dit que finalement... Lorsqu'on était, on avait affaire à des violations de licence, le débat sur l'originalité ne devait pas avoir lieu, puisque finalement, la question qui se posait, c'était le périmètre du contrat et sa bonne ou mauvaise exécution. Et aujourd'hui, on a un arrêt de la Cour d'appel de Paris d'octobre 2018 qui a saisi la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir si... Le fait pour un licencié d'un logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence, est-ce que cela constitue-t-il une contrefaçon ou eh bien, est-ce que ça peut obéir à un régime juridique distinct comme le régime de la responsabilité contractuelle? Et la Cour de justice de l'Union européenne va être amenée donc à se prononcer sur cette question qui nous intéresse vivement parce que ça risque de faire évoluer aussi justement les difficultés qu'on peut avoir quand on est face à des contestations d'originalité alors même qu'il existe un contrat et que la partie eh bien, s'est soumise à ce contrat. Donc on attend avec impatience les suites qui seront apportées à cet arrêt. Voilà, donc je vous remercie pour...
Ben, merci Noémie, et on attend évidemment cet arrêt de la CJUE, en espérant que ça ne soit pas comme le dernier arrêt qu'on attendait, qui était sur les ventes forcées, où la CJUE avait pris une position très très surprenante. En tout cas, merci donc Noémie Berger du cabinet Dune. J'en profite pour saluer Olivier Hugo, qui est également avocat et depuis très longtemps proche de l'April. Donc on va bientôt terminer l'émission, mais je vais faire quelques annonces après un petit jingle musical. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Je vais faire juste quelques annonces, alors très rapides, mais des annonces importantes. D'abord, la campagne contre l'article 13, mais aussi l'article 11 de la proposition de directive droit d'auteur. Donc, il y a de la mobilisation en cours. Donc, vous pouvez aller sur april.org, Wikimedia France et le site de campagne saveyourinternet.eu. On n'a pas de date encore du passage en séance publique, mais probablement ce sera la dernière semaine de mars, sauf s'il l'avance à la semaine prochaine, mais a priori on saura ça demain. Donc voilà, la campagne contre l'article 13. Également une autre campagne au niveau européen, la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc là vous allez sur le site de laquadrature.net, donc le site de la Quadrature, et nous aurons la semaine prochaine deux personnes de la Quadrature pour parler de ce sujet. Dans les autres actualités un peu plus souriantes, parce que là c'est pour défendre des libertés qui sont mises en danger, donc je vous rappelle que le Libre en Fête 2019 a commencé ce samedi 2 mars, il se déroule jusqu'au 7 avril, il y a déjà plus de 120 événements référencés partout en France, donc vous allez sur le site libre-en-fête.net. Je vous rappelle aussi que comme chaque jeudi soir à Paris à la FPH dans le 11e arrondissement, il y a la soirée de contribution au Libre, et puis tous les autres événements vous les retrouvez sur le fameux site l'agenda du libre dont on a parlé la semaine dernière avec Emmanuel Charpentier, donc agendadulibre.org. Alors notre émission se termine, je vais remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé à l'émission, donc Xavier Berne, Pierre-Yves Baudouin, Nadine Lelirzin, Noémie Berger. Je remercie donc également Patrick Creusot à la régie, Charlotte Boulanger qui était avec lui, je remercie également PG sur le salon parce qu'il, pour les questions qu'il a posées et que j'ai relayées ici. Donc vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles concernant l'émission, donc elle va être mise à jour après l'émission pour rajouter des points. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 12 mars 2019. Notre sujet principal portera sur la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire avec nos camarades de la Quadrature du Net. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et d'ici mardi prochain, portez-vous bien.